Dans la fabrique de cette semaine, nous parlons d'Asie, d'Indochine et de Cambodge. Et plus exactement aujourd'hui, nous parlons de ces thèmes avec deux historiens, Pierre Grosser et Christopher Gaucha, après bien évidemment un nouvel épisode du feuilleton sur la fabrique de la guerre froide. Ce matin, un nouvel épisode, le 19e du feuilleton La Fabrique de la Guerre froide, nous raconte, par l'intermédiaire de l'historienne Jenny Raflick, comment les communistes ont quitté le gouvernement français en 1947. Et puis ensuite, nous recevrons deux collègues de bureau de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, à savoir l'historien des relations internationales Pierre Grosser, qui raconte à Séverine Latard dans l'entretien qu'il lui a accordé avant de repartir à Montréal, le thème de son prochain livre, l'histoire du monde fait en Asie, qui paraîtra chez Odile Jacob. Et puis en deuxième partie, j'aurai le plaisir de recevoir l'historien Christopher Gaucha, qui nous présentera son dernier livre « Indochine ou Vietnam » publié aux éditions Vendémiaire, dans lequel il s'interroge sur la prégnance du modèle indochinois colonial dans la pensée même, par exemple, des révolutionnaires vietnamiens. Mais tout de suite, le 19e épisode de La Fabrique de la Guerre froide, signé Anaïs Quien.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
Nous allons essayer de reconstituer la séance qui s'est tenue ce matin à la Chambre des députés sous la présidence de Madame Germaine Pérol. Nous allons le faire dans la cour d'honneur du Palais Bourbon, à la fin de cette séance, alors que les parlementaires montent rapidement dans leur voiture pour aller déjeuner. Dans ce carrousel de voitures et dans cette précipitation générale, il n'est vraiment pas facile de dérouler le câble de notre micro et d'atteindre les présidents de groupe qui sont intervenus ce matin dans le débat. Vous n'ignorez pas qu'il s'agissait aujourd'hui de voter sur la motion de confiance au gouvernement qui avait été déposée hier par M. Charles Lucie au nom du groupe socialiste. Avant le vote, il y eut les explications de vote. Et c'est M. Jacques Duclos, président du groupe parlementaire communiste, qui monta le premier à la tribune. Nous arrêtons le leader communiste au moment où, assis au fond de sa voiture, il s'apprête à franchir le porche de la cour d'honneur. L'interview va donc être prise à travers la portière ouverte. Monsieur le Président, je voudrais que pour les auditeurs de la radio, vous résumiez en quelques phrases l'essentiel des déclarations que vous avez faites tout à l'heure à la tribune pour expliquer le vote du groupe communiste.
Eh bien, nous avons refusé de voter lors du jour de confiance parce que nous considérons que la politique que l'on nous demandait d'approuver n'est plus celle que nous avons approuvée en janvier dernier. Il s'agissait en effet, à ce moment-là, d'accroître le pouvoir d'achat des masses laborieuses. Il s'agissait de revaloriser le salaire réel. Et le moyen qui était préconisé, c'était la baisse des prix. Nous avons fait l'expérience de la baisse des prix. Et les méthodes qui ont été employées ont sans doute manqué d'efficacité puisque, loin d'avoir obtenu les 10% que théoriquement nous aurions dû obtenir, il n'y a une baisse que de 3,3%.
En conséquence, M. Jacques Duclos, le groupe communiste au nom duquel vous parliez a voté à l'unanimité contre la motion de confiance.
Nous avons voté à l'unanimité contre la motion de confiance, mais j'ai bien précisé que je parlais au nom d'un grand parti de gouvernement, au nom d'un parti qui est d'autant plus conscient des responsabilités qui pèsent sur ses épaules qu'il sait être le plus grand parti de France.
Eh bien, je vous remercie, M. Jacques Duclos, et je vous laisse partir, car certainement vous allez avoir une journée chargée.
Les relations se tendent au sein du gouvernement français face aux crises sociales et économiques. Le 5 mai, les ministres communistes sont exclus du gouvernement. Jenny Raflick.
Jacques Duclos est le chef du groupe parlementaire communiste. C'est un des deux grands leaders du Parti communiste à la période avec Maurice Thorez. Maurice Thorez qui d'ailleurs est ministre et va être concerné par cette question du renvoi des ministres communistes par Paul Ramadier. On est dans un contexte un peu particulier, mais qui commence à s'inscrire dans la longue durée de tensions, en particulier au niveau social. Les prix s'envolent, le rationnement est toujours en place en 1947, il va le rester encore assez longtemps. Le marché noir pèse lourdement sur l'économie, donc on a une très forte inflation dans le pays.
Et des grèves ?
Et alors, les grèves viennent de ce marasme économique, puisque le gouvernement, et Paul Ramadier reste justement bloqué sur cette politique, le gouvernement a décidé un blocage des salaires pour essayer de lutter contre la situation économique. Et c'est contre ce blocage du salaire qu'éclatent les grèves. Alors, celles qui sont les plus connues et celles qui, là, en l'occurrence, vont jouer un rôle important, ce sont les grèves qui éclatent chez Renault le 25 avril. Les ouvriers demandent une augmentation de salaire et le PC, dès le 30 avril, va se joindre à leur demande et demander la fin du blocage des salaires et effectivement ce changement de politique important. Et c'est dans ce contexte très précis de grève chez Renault que la question de confiance est posée le 4 mai par le gouvernement Ramadier. Mais en réalité, les tensions dépassent largement ce que Jacques Duclos évoque ici, cette question des salaires, de l'inflation, énormément de tensions sur la politique extérieure de la France et la politique coloniale. En l'occurrence, le ministre de la Défense nationale, François Billoux, est un communiste et il y a eu un incident le 18 mars, donc un petit peu avant cet épisode. François Billoux refuse de se lever à l'Assemblée nationale pendant l'hommage rendu aux morts pour la France en Indochine. Et les incidents continuent à se multiplier et on est finalement arrivé le 4 mai à cette situation de crise très grave au sein du gouvernement où les ministres communistes désapprouvent quasiment toute la politique menée par le gouvernement Ramadier. Alors, Paul Ramadier ne va pas exclure du gouvernement les ministres communistes parce qu'ils sont communistes, il exclut ceux qui ont refusé de voter la confiance au gouvernement dont ils font partie.
À quelle date sont-ils renvoyés ?
Alors, la décision de Ramadier est prise le 5 mai. C'est un peu vécu comme un non-événement.
Comme un jeu parlementaire.
Certains députés ou certains ministres communistes estiment qu'à la chute du gouvernement Ramadier, ils reviendront tout naturellement dans le gouvernement suivant.
Or, il n'y aura plus de ministres communistes jusqu'en 1981 en France.
Voilà, il faudra attendre François Mitterrand pour que les communistes reviennent au pouvoir. Et effectivement, c'est le début de cette période où le Parti communiste devient un parti d'opposition, puisqu'il ne participera plus à aucun gouvernement après cette date du 5 mai 1947.
Comme d'habitude, vous pouvez télécharger séparément de l'émission du jour le feuilleton, le 19e épisode de ce feuilleton sur la fabrique de la guerre froide, deuxième partie de cette émission, un long entretien qui a été réalisé il y a quelque temps par Séverine Yatard à l'occasion du passage à Paris du professeur qui est actuellement à l'Université du Québec à Montréal, Pierre Grosser, qui est également enseignant à Sciences Po, historien des relations internationales. Il évoque justement la question de l'Asie et de la place de l'Asie dans l'histoire du XXe siècle, qui est au cœur de notre semaine dans la fabrique de l'histoire.
Pierre Grosser, bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po, grand spécialiste de l'histoire des relations internationales et des enjeux mondiaux contemporains. Et vous préparez un ouvrage chez Odile Jacob, « L'histoire du monde se fait en Asie ». Alors, rien que le titre, évidemment, nous dit un peu le projet. L'idée, évidemment, c'est d'essayer de revisiter l'histoire et en particulier l'histoire des relations internationales à travers une nouvelle focale qui est l'Asie. Et vous expliquez ça dans votre introduction en disant que, effectivement, aujourd'hui, le centre de gravité du monde a glissé vers l'Asie et qu'il est nécessaire, ou en tous les cas, ça donne l'idée de revisiter justement cette histoire pour faire donc une histoire moins occidentalo-centrée, qui changerait de focale au niveau régional. Alors déjà, peut-être sur cette question de aujourd'hui, l'histoire doit se faire par l'Asie.
Alors déjà, aujourd'hui, c'est une question qui se pose, puisque on se pose beaucoup de questions sur la stratégie de Monsieur Obama, notamment au Moyen-Orient. Et si effectivement on ne regarde que les relations bilatérales entre les États-Unis et des pays du Moyen-Orient, on oublie que pour les États-Unis, puissance globale, l'Asie et la montée en puissance de la Chine et les problèmes liés à l'Asie sont extrêmement importants. On a beaucoup parlé d'une espèce de pivot vers l'Asie. D'ailleurs, tout le monde parle de pivot vers l'Asie. La Russie parle de pivot vers l'Asie, l'Union européenne, l'Inde, tout le monde parle de pivot vers l'Asie. Et donc, on s'aperçoit bien que la question de la montée en puissance de l'Asie, et notamment de la Chine, sont extrêmement importants d'un point de vue économique et d'un point de vue stratégique. Et si on oublie ça dans ce qui est sur le bureau d'Obama, enfin, ce que j'imagine être sur le bureau d'Obama, j'y suis assez rarement, eh bien, c'est effectivement l'Asie qui, à mon avis, est un élément de priorité. Ce qu'on voit d'ailleurs sur tous les blogs ou les revues stratégiques américaine.
Et finalement, vous, dans votre démarche, Pierre Grosser, alors, c'est l'actualité, enfin, c'est l'actualité d'aujourd'hui, ce dont vous venez de nous parler, qui vous fait penser que l'histoire elle-même n'a pas été assez travaillée, vue de l'Asie, justement.
Si vous voulez, traditionnellement, dans les livres de relations internationales, notamment en France, on est très concentré sur le Rhin, sur les relations franco-allemandes, sur l'Europe. Et on oublie que la plupart des grandes puissances du monde ont été des puissances globales avec des intérêts très importants en Asie. Alors moi, j'ai fait une thèse sur l'Indochine, la fin de la guerre d'Indochine, et justement, j'ai essayé de montrer que la place de la France en Asie était très importante pour le statut de puissance mondiale de la France. Mais l'Indochine et l'Asie a toujours été très secondaire pour les Français. Mais si vous prenez les vraies grandes puissances du XXe siècle, c'est-à-dire, en gros, l'Empire britannique, les Américains, et l'Union soviétique, enfin la Russie puis l'Union soviétique, l'Asie est un élément absolument essentiel dans les équilibres mondiaux. Et même si on reprend quelque chose d'assez simple sur les années 1930, on peut pas comprendre la stratégie d'appeasement britannique si on voit pas qu'il y a une dimension qui est la dimension asiatique.
Alors avant peut-être d'entrer justement dans les détails hein, de cette histoire, Pierre Grosser, par rapport à Subramanian, par exemple, à toute cette école historique, la global history, l'histoire mondiale, comment vous vous situez en tant que spécialiste des relations internationales? Donc une histoire qui est, bon, on va dire, qui a émergé durant les années 90, qui aujourd'hui entraîne un peu les sciences humaines en général. Hein, toutes les sciences humaines semblent s'intéresser à cette manière, de nouvelle manière de lire l'histoire. Comment, voilà, les relations internationales, qui déjà, évidemment, elles-mêmes étaient connectées de par leur sujet, par ces problématiques de relations entre les pays et de focales différentes.
Alors, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire globale et à l'histoire transnationale parce que c'est une discussion qui existe depuis longtemps chez les historiens des relations internationales. C'est d'essayer de prendre en ligne de compte d'autres acteurs que les États et de réfléchir à des interactions au niveau global. Alors, a émergé pour tout un tas de raisons, souvent assez complexes, une histoire décentrée, une histoire connectée, enfin tout un tas de noms, qui souvent fait complètement fi de l'histoire des relations internationales. Alors l'histoire des relations internationales, il faut quand même le dire un petit peu, c'est aussi ça qui a guidé l'histoire du monde, parce que les guerres sont quand même très largement faites par des États. Alors aujourd'hui, ça change peut-être un peu, mais traditionnellement, c'était quand même ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour l'histoire des relations internationales? C'est que très souvent, encore une fois, on est centré sur l'Europe. L'idée, c'est pas d'enlever la question européenne, mais c'est de tenir compte que pour les décideurs de l'époque, américains, russes, japonais, britanniques et même chinois, on pensait global. Et donc, d'ailleurs, la notion de dire qu'on maintenant il y a une mondialisation, moi, je suis toujours été très surpris, c'est qu'on avait la perception d'un monde global bien avant même la fin du 19e siècle. Et donc, que toutes les stratégies étaient pensées d'un point de vue tout à fait global. Et donc, on s'intéressait à ce qui se passait au reste du monde. Et notamment dans le cas russe, et on le revoit aujourd'hui, ne pas penser la Russie comme état eurasiatique, et continuer à faire des cartes où on coupe en morceaux la Russie, et puis on a un tout petit bout de Russie sur une carte de l'Extrême-Orient, et personne, pratiquement, en tout cas en France, ne travaille sur les relations internationales en Asie, et encore moins tenant compte de la Russie, ça pose un problème tout à fait considérable. C'est une puissance asiatique, et on peut rien comprendre à l'attitude du Japon, de la Chine et de la Grande-Bretagne dans la région, si on voit pas que la Russie est absolument essentielle.
Alors du coup, pour finir hein, peut-être sur la construction, les problématiques de votre ouvrage, hein, l'histoire du monde se fait en Asie, enfin qui est en cours de publication, Pierre Grosser. Alors vous avez même choisi une structure un peu atypique en tous les cas, de chapitrer des événements, des dates, et à chaque fois de les revisiter par justement la focale. Asie. Alors, par exemple, voilà, l'Empire britannique, ce sont les Indes, la rivalité anglo-russe au XIXe siècle a forgé l'histoire de l'Eurasie, la victoire du Japon sur la Russie, enfin voilà, à titre d'exemple. Et voilà, vous allez proposer, a priori, une vingtaine de chapitres. Alors, ça me fait penser aussi à un de vos ouvrages que vous aviez écrit précédemment, concernant l'année 89. C'est-à-dire, vous choisissez une date, et à partir de cette date, vous déployez, redéployez toutes sortes de problématiques. Alors ici, il n'est pas question d'une date, il est question plutôt d'un continent, d'un aire géographique et des relations relations
autour de certains moments, effectivement. Enfin, je veux dire, la guerre russo-japonaise au moment du centenaire a été très largement revue. Certains, il y a eu des gros colloques, mais évidemment, très loin de la France, où on disait que c'était la guerre mondiale zéro. Elle a des conséquences très importantes, par exemple, parce qu'elle a affaibli la Russie. Et à partir de ce moment-là, tout le système qui a mené à 14, c'est-à-dire les deux alliances, se sont construites. Ces deux alliances se sont construites à la suite de cette faiblesse momentanée de la Russie. Et d'un autre côté, c'est le retour en puissance de la Russie qui s'intéresse maintenant à l'Europe, qui a provoqué très largement la Première Guerre mondiale. Et donc le problème n'est pas le problème allemand, le problème est le déclin puis la montée en puissance de la Russie. Et ça, c'est une question asiatique.
Alors, par exemple, dans votre ouvrage, Pierre Grosser, vous revisitez les prémices de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, en analysant à nouveau la question du traité de Versailles.
Oui, il y a des moments importants dans cette période, puisque, pour aller vite, il y a d'abord l'intervention des Japonais dans la guerre civile russe, ce qu'on oublie souvent, et c'est ceux qui ont envoyé le plus de troupes. Et donc ça, c'est un élément structurant, puisque les tensions entre l'Union soviétique ensuite et le Japon sont, j'allais dire, quasiment structurelles pendant toute l'après-guerre. Et d'ailleurs, elles durent encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a toujours pas de traité de paix entre la Russie et le Japon sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un élément absolument structurant des relations internationales.
Donc le Japon va acheminer des troupes, c'est ça, aux
Voilà, il y a des dizaines de milliers de troupes qui vont en Russie. Ils ont même créé une espèce de république en Extrême-Orient. Et donc ça, c'est resté vraiment dans l'esprit des soviétiques que les interventions internationales sont pas que les Britanniques et les Américains, ce sont aussi les Japonais. Il faut bien voir qu'il y a une zone au nord de la Chine qu'on appelle la Mandchourie et qui est une zone très particulière, qui a été vraiment le lieu des grandes rivalités internationales au XXe siècle. On dit souvent pratiquement toutes les guerres au XXe siècle sont nées presque dans les Balkans. Eh bien, elles sont nées aussi très largement en Mandchourie. Et d'ailleurs, il faut bien rappeler, puisqu'on parle je reviendrai sur l'après-Versailles, mais il faut bien rappeler aussi que en 1931, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale d'une certaine façon, qui commence par, finalement, des tensions liées à la puissance soviétique dans la région, liées aux ambitions japonaises, liées à l'impérialisme britannique, liées au nationalisme chinois. Et tout ça, finalement, a commencé à déstructurer le système international. Ensuite, vous avez 1937, et donc on a une espèce de guerre civile chinoise ou un problème chinois qui s'est régionalisé, puis qui s'est mondialisé avec la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce qui est tout à fait fascinant, dont on reparlera peut-être, c'est à quel point les Chinois se replacent eux-mêmes au centre de cette histoire. Et ils ont, d'une certaine façon, tout à fait raison. Alors, je reviens sur les années 20. On oublie aussi, puisqu'on parle souvent de la stabilisation de l'Europe avec, disons, le traité de Locarno et autres, vous avez une stabilisation avec le traité de Washington, et un moment très important, qui est en 1922, la fin de l'alliance entre les Britanniques et les Japonais, qui était une alliance de 1902, qui est là aussi un tournant absolument essentiel de l'histoire du monde. Le traité de Washington, c'est un traité de limitation des armements, notamment des armements navals, d'une part, et une espèce d'accord collectif pour limiter les ambitions en Chine. Donc c'était un moyen de limiter une course aux armements que tout le monde, qui inquiétait beaucoup de monde, c'est-à-dire les Japonais, les Américains et les Britanniques. Et vous avez, comme en Europe, finalement, des années 20 relativement paisibles dans la région, sauf les toutes dernières années. Mais ce qui est important, c'est ce tournant de la fin de l'alliance entre les Britanniques et les Japonais, puisque l'alliance avec les Japonais en 1902 avait pour objectif, finalement, de contenir la Russie. Je rappelle, et c'est fondamental, que l'élément structurant des relations internationales au 19e et au 20e siècle, c'est pas la rivalité franco-allemande, c'est la rivalité anglo-russe. Bon, si on comprend pas ça, on peut rien comprendre à l'histoire des relations internationales. Bon, et les Américains remplaçant les Britanniques ensuite. Et donc en 1902, en s'alliant avec le Japon, eh bien c'est une façon donc de contenir la Russie, mais aussi d'une certaine façon de surveiller le Japon. Or à partir de 1922, à partir du moment où il n'y a plus personne, sauf un accord multilatéral qui va voler en éclats assez rapidement, il n'y a plus personne qui contrôle le Japon, et le Japon a ses propres relations, ses propres tensions avec l'Union soviétique.
Et c'est ça que veut éviter absolument aussi les États-Unis, du coup.
Alors les États-Unis sont un des pays les plus hostiles au Japon d'un point de vue stratégique, mais en même temps, c'est eux qui donnent énormément de capitaux aux Japonais. Une partie des conquêtes japonaises se sont faites avec des capitaux américains. Donc, c'est une attitude qui est relativement ambivalente de la part des États-Unis. Mais dès 1907, vous avez des plans de guerre américains contre le Japon, et les Japonais, assez rapidement, s'aperçoivent que leur futur ennemi sera sans doute les États-Unis.
Puis, alors, il y a la question de la Chine aussi, qui revient toujours. Alors, là, justement, dans ces années 20, enfin, on a Chiang Kai-shek, on a aussi les communistes, enfin, et on a des alliances assez étonnantes. Une Chine nationaliste qui va signer des traités avec la Russie soviétique, l'URSS.
Alors, au début, il y a effectivement un soutien assez fort de l'Union soviétique à l'alliance entre les nationalistes et les communistes. Et ça, c'est aussi une conséquence de l'échec de la révolution en Europe. À ce moment-là, ils se tournent vers l'Asie. Les soviétiques se tournent vers l'Asie. Et donc, vous avez entre une alliance qui est en gros parrainée par les soviétiques, qui vole en éclats. Tout le monde a lu un peu André Malraux en 1927, où donc les nationalistes se jettent sur les communistes et ça se passe extrêmement mal. Et à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le nationalisme chinois qui se développe encore plus, qui inquiète les Japonais, qui évidemment commence à avoir une action un peu plus nerveuse en Chine. Et d'un autre côté, les soviétiques s'inquiètent de cette montée en puissance du Japon et de cette présence jusqu'en Mongolie, donc encore une fois aux frontières de l'Union soviétique. Et on sait aujourd'hui quand même très largement que le réarmement, ou en tout cas le fait d'orienter le plan quinquennal vers l'armement de la part de l'Union soviétique, c'est à cause de la menace japonaise, qu'une partie de la terreur soviétique est liée à cette crainte d'une espèce d'alliance qui d'ailleurs va avoir lieu, hein, entre le Japon et l'Allemagne. Et donc un encerclement avec une guerre sur deux fronts. Et donc on nettoie très largement, hein, la grande terreur, c'est de nettoyer les frontières pour éviter qu'Allemands, Polonais et Japonais ensemble essayent de grignoter sur et de déstabiliser les périphéries de l'Union soviétique. Les questions asiatiques étaient très importantes pour Staline. Encore une fois, Staline a une vision eurasiatique des choses. Et si le Japon arrive, le Japon militariste arrive à s'appuyer en plus sur la Chine, c'est évidemment une menace tout à fait considérable pour l'extrême-orient soviétique.
Et donc c'est aussi une manière aussi de remettre en valeur cette fameuse guerre sino-japonaise, en fait, qu'on a un peu tendance à oublier, mais à ne pas...
On en reparle autour notamment des violences qui ont été commises par les Japonais. Mais stratégiquement, c'est absolument fondamental. Mais le problème, c'est qu'on le présente trop souvent comme un face-à-face entre le Japon et la Chine. Or, les Britanniques ont un rôle important, les Américains, évidemment, par derrière, ont un rôle important, et les Soviétiques sont absolument fondamentaux. J'explique, c'est qu'on a du mal à comprendre aussi le pacte germano-soviétique en 1939, si on ne s'aperçoit pas qu'au même moment, vous avez une guerre, enfin un affrontement entre les Soviétiques et les Japonais, et que finalement, Staline a très très bien joué, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, à l'été 1939, puisqu'auparavant, il craignait une alliance entre l'Allemagne et le Japon, une alliance devenue militaire qui le pousserait à une guerre sur deux fronts. Et d'un côté, il fait alliance, il y a un pacte avec l'Allemagne nazie qui, en fait, repousse l'Allemagne nazie vers l'Ouest, sans compter, évidemment, le fait de supprimer la Pologne à deux. Et de l'autre côté, finalement, grâce à l'Allemagne, il va pouvoir calmer un peu le Japon, mais il y a aussi une victoire militaire sur le Japon. Et donc le Japon, au lieu d'attaquer l'Union soviétique, va pouvoir se détourner vers le sud. Donc, en 1939, le paysage est complètement dégagé pour Staline, l'Allemagne est occupée avec une autre guerre, et le Japon recommence à regarder un peu plus vers le sud.
Et Pierre Grosser, alors cette histoire décentrée et focalisée sur l'Asie et par exemple voilà sur des conflits comme la guerre sino-japonaise, qu'en est-il justement en Chine et au Japon? Parce que en regardant aussi votre ouvrage, on voit beaucoup les références bibliographiques, hein, qui sont nombreuses, très abondantes. On voit beaucoup de références anglophones. Et puis par moment, bon, vous faites référence aussi à l'historiographie chinoise, maoïste, post-pré maoïste. Alors, cette histoire vue de l'Asie, qu'en est-il en Asie et quelle relation elle entretient avec l'histoire anglo-américaine et française? J'ose à peine le dire, parce que j'ai l'impression que là, c'est...
Il commence à y avoir une nouvelle génération qui travaille dessus, mais il y a eu un gros gap générationnel sur l'histoire de l'Asie. Pour ce qui est en termes de relations internationales, maintenant, tout ça circule, donc les historiens chinois, japonais écrivent en anglais, on a des comptes rendus de lecture, etc., etc. Ben, de toute façon, on peut pas parler toutes les langues de la région. Donc, l'évolution majeure, c'est, pour aller vite, la réhabilitation en Chine des nationalistes. de la Chine de Chiang Kai-shek. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a permis à la Chine de retrouver son rang. Elle a permis de conserver en gros son territoire si on enlève la Mongolie intérieure. Elle a permis de conserver le rang et même de l'accroître puisque la Chine était humiliée. Et là, la Chine, à partir de 43 et la conférence du Caire, devient une des grandes puissances et même membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a d'ailleurs un film qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui en Chine qui va apparaître. Et donc, il y a déjà tout un tas de choses assez rigolotes autour parce qu'on fait croire que c'était Mao qui était à la conférence du Caire avec Roosevelt et avec Churchill. Bon, donc il y a cette idée-là que finalement les nationalistes étaient quand même nationalistes et que le redressement de la Chine n'a pas commencé le 1er octobre 1949, mais a commencé auparavant. Et cette évolution qu'on sent poindre depuis un moment pour dire que finalement Chiang Kai-shek n'était pas si mauvais, qu'il a fait un certain nombre de choses, qu'il a quand même combattu, encore une fois... On vante énormément le fait que les Britanniques ont tenu et ont continué à mener la guerre malgré une situation difficile. Mais si les, moi je me pose plusieurs fois la question, si les Chinois n'avaient pas continué la guerre, avaient traité avec les Japonais, on aurait évidemment un contexte international en 40-41 qui aurait été totalement différent. Bon. Le terme de l'évolution, c'est que depuis 2014, en Chine, maintenant, on considère comme un jour important le 3 septembre, ce qui est équivalent pour nous du 2 septembre 1945, enfin l'équivalent du 45, c'est-à-dire en fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire, entre guillemets, des Chinois sur les Japonais. Et cette année, il y a donc le 3 septembre 2015, il y a une grande cérémonie où d'ailleurs M. Poutine était présent et la présidente de la Corée du Sud, avec un discours absolument extraordinaire de Xi Jinping, donc le dirigeant principal de la Chine que tout le monde doit commencer à connaître, pour expliquer que c'est en fait la grande victoire du front antifasciste, c'était grâce aux Chinois qui ont commencé plus tôt à faire la guerre, ce qui est vrai, ont été les derniers à se battre, ce qui est vrai. Et deuxième chose, il a annoncé ce chiffre incroyable que ça aurait coûté 35 millions de morts, donc il ferait encore mieux que les Soviétiques, qui eux, officiellement, maintenant, on considère qu'ils ont entre 25 et 27 millions de morts. Donc finalement, la Deuxième Guerre mondiale, la grande guerre antifasciste, aurait été gagnée essentiellement par les Chinois. Donc là, évidemment, on va peut-être un peu loin par rapport à cette histoire, mais on ne peut pas tenir compte du fait que les Américains aussi ont gagné ce qu'ils appellent la guerre du Pacifique, qui a l'air d'être une guerre entre les États-Unis et le Japon, aussi parce que les Chinois ont continué à se battre, que les Chinois ont fixé un nombre considérable de troupes, et que tout ça a été un sacrifice important. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'auparavant, la Deuxième Guerre mondiale n'était qu'une étape dans l'ascension au pouvoir du Parti communiste, et la date importante de régénération de la Chine, c'était le 1er octobre 1949, et que maintenant, on considère que la Deuxième Guerre mondiale est un élément d'histoire absolument central, même si on sait qu'il y a des arrière-pensées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une façon de dire que les Japonais sont restés fascistes, qu'il faut être vigilant par rapport aux Japonais, etc., etc. Mais je crois qu'il y a vraiment une transformation très nationaliste de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en Chine, qui continue une évolution historiographique qui date des années 80.
Et ça, Pierre Grossière, pour vous, historien français, mais aussi anglais-américain, ce tournant historiographique, il est important, du coup, il vous fait réfléchir aussi autrement.
Oui, bien sûr, parce que ça montre bien qu'il faut réintégrer tout le monde dans l'histoire des relations internationales. Que l'idée, c'est pas encore une fois, comme on le dit souvent, de désoccidentaliser l'histoire des relations internationales ou même l'histoire d'une façon générale, c'est de prendre tout le monde en compte. Et à la limite, on peut le faire de façon, j'allais dire, très occidentale. C'est-à-dire, quand on réfléchit à la stratégie britannique, quand on réfléchit à la stratégie américaine ou quand on réfléchit à la stratégie russe, on tient compte de l'Asie, c'est pas être tout centré sur l'Asie, c'est de tenir compte du fait que c'est très important pour la manière de régler les questions. La grande question des années 50 avec la guerre de Corée, c'était de la part des Américains de savoir s'il fallait donner la priorité à l'Europe ou la priorité à l'Asie, où la vraie menace semblait être extrêmement présente avec la guerre de Corée. Donc c'est quand même un enjeu tout à fait concernant. Et pour les Européens, c'était extrêmement important d'être sûr que ce ne soit pas les Asiatistes qui triomphent, parce qu'à ce moment-là, les ressources militaires et la priorité diplomatique partaient du côté de l'Asie.
Merci Pierre Grossière. On attend donc votre ouvrage, apparaître chez Odile Jacob. L'histoire du monde se fait en Asie. On peut peut-être citer le dernier ouvrage qui était sur les enjeux de la diplomatie au XXIe siècle, chez Odile Jacob aussi, traité donc avec le diable. Merci Pierre Grossière.
Merci beaucoup.
France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Une fabrique de l'histoire qui toute cette semaine se plonge dans l'histoire du sud-est asiatique. Et aujourd'hui, donc après Pierre Grosser, un de ses collègues, qui l'a même invité à venir s'installer quelque temps comme professeur associé à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, à savoir Christopher Gauchat. Bonjour Christopher Gauchat.
Oui, bonjour Emmanuel.
Merci d'être venu donc nous rejoindre ici à la Fabrique de l'Histoire pour la parution de votre livre « Indochine ou Vietnam » paru chez Vendémiaire. C'est un livre que vous avez déjà publié il y a quelque temps en anglais, qui vient tout juste d'être traduit et qui se pose une question essentiel si on veut s'intéresser au sud-est asiatique, c'est de savoir si les catégories par lesquelles les colonisateurs français ont pris possession de ce sud-est asiatique, ces catégories-là, ont-elles migré au bout du compte, y compris chez les colonisés eux-mêmes à l'intérieur de ce sud-est asiatique, que ça soit au Cambodge, au Laos ou encore au Vietnam. Et c'est pour cela que vous avez intitulé ce livre « Indochine ou Vietnam » en vous interrogeant sur la façon dont les colonisés se sont appropriés cette catégorie de l'Indochine. Est-ce qu'ils l'ont faite leur ? Est-ce qu'ils l'ont utilisée pour pouvoir même combattre les colonisateurs, Christopher Gauchat ?
Oui, tout à fait, c'est ça. Je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont amené à ce sujet. Comme je l'ai dit dans le livre, j'ai découvert un débat complètement par hasard à la Bibliothèque nationale de France au début des années 90, donc un débat entre deux Vietnamiens non communistes d'ailleurs à l'époque qui n'étaient pas sûrs si l'Indochine existait ou pas. Un disait que l'Indochine devait exister, l'autre dit non, il faut pas aller si vite que ça, c'est le Vietnam qui existe. L'autre chose qui m'a amené à ce sujet, c'est une question que Benedict Anderson a posée dans un livre qu'il a publié dans les années 80, qui a été réédité justement au début des années 90. Et lui, il a posé les questions, pourquoi les Japonais sont devenus indonésiens ? Et moi, je me suis dit, oui, c'est vrai que les Japonais sont devenus indonésiens. Et pourquoi les Vietnamiens ne pouvaient-ils pas devenir indochinois ? Donc c'était un peu à partir de ces deux choses-là que je commençais à faire des recherches, toujours dans les archives, dans les journaux. Et puis je continuais à creuser justement le titre de mon livre aujourd'hui, Indochine ou Vietnam, avec un point d'interrogation parce que les Vietnamiens auraient pu devenir indochinois.
Alors justement, vous expliquez bien comment, dans les années 30, en particulier après la Première Guerre mondiale, il y a un véritable débat dans les milieux intellectuels vietnamiens, Namit en particulier, sur ce que doit être la présence vietnamienne dans le reste de la péninsule, qui est effectivement, est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit profiter même pour certains des indochinois, est-ce qu'on doit profiter de cette colonisation pour aller s'installer, par exemple, du côté du Cambodge, du côté du Laos, et faire d'une certaine façon de cet espace géographique un espace annexe à l'espace de ce qui va devenir le Vietnam. Et ce sont des débats qui sont très farouches, que vous relayez dans votre livre, Christopher Gauchat, entre intellectuels vietnamiens en particulier, entre intellectuels annamites.
Absolument. Je dirais, au niveau politique, dès le début de la colonisation française, à la fin du 19e siècle, les Français, comme vous le savez, ils ont commencé avec la Cochinchine dans le sud, suivi par le Cambodge à l'ouest. Et puis, avec la Troisième République, c'était la Nam et le Tonkin. Et puis, on arrive en 1887 avec la création de l'Union indochinoise. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les Français, ils ont divisé donc le Vietnam qui existait avant en trois parties, et le Vietnam restait donc divisé en trois parties. En même temps, les Français, au moins jusque dans les années 20 et 30, ils poussaient les Vietnamiens à se penser indochinois. Pourquoi ? Parce que ils avaient quand même conquis le Vietnam, mais ils avaient besoin des partenaires pour construire ce nouvel État indochinois. Donc, en quelque sorte, les Français et les Vietnamiens marchaient ensemble, hein, comme ce qui est tout à fait normal pour faire marcher ce nouvel État indochinois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, politiquement, les Français disaient aux Vietnamiens, par exemple, le grand discours de Albert Sarro en 1919.
Gouverneur général de l'Indochine.
Exactement. Allez, on va marcher ensemble vers un éventuel État indochinois, une fédération indochinoise. Deuxième chose, on va travailler ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va envoyer donc des administrateurs vers le Laos et le Cambodge. Ça fait sens dans un certain sens. On a besoin toujours des partenaires pour faire marcher le niveau indo-chinois de l'administration. Attention, ça ne veut pas dire que les Vietnamiens dirigeaient les monarchies laotiennes et cambodgiennes, mais ils étaient très impliqués, les Vietnamiens, dans l'administration du Laos et du Cambodge au niveau fédéral, si je peux le dire. Troisième chose, main-d'œuvre. Donc les Français s'appuient quand même sur une main-d'œuvre plutôt vietnamienne pour travailler dans les plantations des vierges, par exemple au Laos, au Cambodge, ou bien dans des mines de charbon, d'argent, d'étain au Laos.
Alors, on voit bien que ce débat est important, d'autant qu'en même temps que ce débat se tient entre intellectuels de la péninsule indochinoise, eh bien, il y a aussi des tentatives françaises de rendre, cet endroit plus populaire, cette idée d'Indochine plus populaire, en particulier, et moi j'ai découvert ça en vous lisant, avec ce livre des cinq fleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre des cinq fleurs qui est écrit par un administrateur colonial hein, et qui dit quoi exactement ce marqué qui compose ce livre des cinq fleurs, Christopher Gauchin?
Tout à fait, donc c'est un homme fascinant, un administrateur français indochinois, si je peux le dire, qui était au Vietnam pendant des années et des années, et qui, en quelque sorte, a pris parti pour le côté oriental de l'Indochine, c'est-à-dire le côté vietnamien. Donc, il va faire ce livre en 1928, le voyage donc à travers l'Indochine par cinq enfants, donc et qui est bien sûr basé sur un modèle républicain, donc le Tour de France, n'est-ce pas, par deux enfants, excusez-moi, donc à la fin du 19e siècle, mais dans le cadre indochinois, il va faire voyager les enfants d'un père confucien vietnamien à travers donc les cinq parties de l'Indochine, évidemment le Tonkin, la Nam et le Cochinchine, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant,
le Cambodge et le Laos.
Voilà. Donc, c'est une façon de faire vivre dans l'imaginaire, mais aussi dans les manuels scolaires, cette collaboration franco-vietnamienne.
Mmh. Et alors, d'autres vont publier des livres qui sont des sortes de réponses à ce livre-là, vont imaginer qu'effectivement, il y a une autonomie plus grande qu'on ne le croit de ce Cambodge et ce Laos, et vous expliquez effectivement que toutes ces questions qui sont énormément débattues dans ces années 30 sont des questions qui, vu du Cambodge et du Laos, eh bien les gens disent attendez, on a notre autonomie, on est le fruit d'anciens royaumes, et ces royaumes-là, ils existent, il y a une identité, on pourrait dire une identité nationale. Absolument. Cambodgienne, qui ne va pas se laisser fondre dans une identité indochinoise dominée par les Annamites en particulier.
Oui, je pense que vous avez entièrement raison. Tout cela se cristallise en quelque sorte autour de cette année 1930. Donc côté vietnamien, vous avez les révoltes nationalistes et communistes, donc qui amènent les Français à vouloir réformer. Et une des réformes importantes, c'est la fédération indochinoise. Donc on va quand même vous donner un État éventuel indochinois. De l'autre côté, vous avez la montée des nationalismes laotiens et cambodgiens, donc qui monte dans les années 20 et qui s'affirme vraiment dans les années 30. Et oui, vous avez des gens comme le prince Petserat au Laos qui dit aux nationalistes vietnamiens qui sont en train de dire que nous sommes des Indochinois, ils disent mais oui, vous l'êtes peut-être, mais nous ne le sommes pas et nous ne voulons pas l'être. Donc nous avons une identité préexistante, donc c'est une identité nationale laotienne, et vous avez des gens au Laos aussi qui disent la même chose. Donc c'est vraiment à partir de 1930 que vous avez des débats donc entre les Vietnamiens d'un côté et puis entre les Vietnamiens et la Laotienne et les Cambodgiens de l'autre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez que dans ces années 30, c'est aussi la montée du mouvement communiste, et que ce mouvement communiste, sous la houlette, et il n'est pas tout seul, effectivement, de Ho Chi Minh, ce mouvement communiste, eh bien, est tiraillé, ne sait pas très bien comment se positionner par rapport à cette question-là. C'est-à-dire, à un moment, il dit « nous sommes des Indochinois », à un autre moment, il dit « nous sommes plutôt des Vietnamiens », et on va utiliser ce terme « Vietnam » qui remonte au 19e siècle pour pouvoir qualifier ce que sera le pays nouvellement libéré dès qu'il le sera en l'occurrence. Et il y a des allers-retours, pourrait-on dire, de positions autour de cette question-là à l'intérieur de ce parti communiste vietnamien.
Tout à fait, toujours autour de cette année clé, 1930. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez les communistes? Bah, là aussi, le problème indochinois, Vietnam se pose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Comintern impose le modèle indochinois parce que tous les bons communistes doivent adopter le modèle colonial. C'est-à-dire qu'ils doivent lutter contre le modèle colonial. Donc, le modèle colonial, c'était pas le Vietnam à l'époque. Le modèle colonial, y compris pour le Comintern, y compris pour Ho Chi Minh et d'autres, était forcément l'Indochine. Ce qui posait un problème, bien sûr, parce que à l'intérieur, chez les communistes, il y avait des gens qui disaient, mais oui, mais attention, attention, on est vietnamiens aussi. Donc, toujours autour de cette année 1930, et ça va continuer après, comme ça continue pour les Laotiens et les Cambodgiens, et comme entre les nationalistes vietnamiens non communistes, le débat continue jusque dans les années 40, même plus loin. Donc oui, le Comintern impose le modèle indochinois. Les communistes, y compris Ho Chi Minh, devaient lutter contre le colonialisme indochinois, l'État français indochinois. Donc le Parti communiste vietnamien devait être indochinois.
Oui, ça veut donc dire aussi, est-ce que ce parti communiste vietnamien doit-il aider les Laotiens et les Cambodgiens à secouer la tutelle coloniale? Est-ce que, d'une certaine façon, il doit mettre le pied sur ce territoire-là? Est-ce qu'il doit en profiter pour pouvoir aussi faire de l'évangélisation communiste dans ce territoire-là? C'est une des questions que se pose le Parti communiste à ce moment-là.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Je dirais juste, comme les autres, personne ne savait trop. Au début. Pas plus que les Français, dans un certain sens. Donc, oui, les Vietnamiens, ils se disaient que, OK, on va adopter donc le modèle indochinois pour définir le communisme. Ça veut dire que nous devons aller mobiliser, trouver des partenaires laotiens et cambodgiens pour construire un parti indochinois avec des Laotiens et des Cambodgiens. Pour faire marcher donc la révolution indochinoise.
Alors, on voit bien que ce débat a été très fort, vous le dites, dans les années 30, dans les années 40, encore sous la tutelle de Vichy, pendant que cet espace géographique est tenu par les représentants de Vichy. Est-ce que c'est une question qui est close, selon vous? Parce que si vous le mettez à l'agenda, en tant qu'historien, cette question, si vous la mettez à l'agenda, c'est aussi parce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui reste de ce débat des années 30, encore dans cette péninsule indochinoise jusqu'à aujourd'hui, Christopher Gauchin.
Oui, je dirais, surtout pour les Français et pour les communistes vietnamiens. Je m'explique. On arrive en 45, et donc, les Français, l'Indochine avait été renversée par les Japonais en mars 1945. Les communistes, quelques mois plus tard, dirigés par Ho Chi Minh, ils vont prendre le pouvoir. Ils vont créer donc le Vietnam, donc la République démocratique du Vietnam. On sait bien que les Français vont revenir. La guerre va éclater en 45-46. Mais ce qui est intéressant, tant chez les Français que chez, si je peux le dire, les communistes vietnamiens, Ho Chi Minh, c'est qu'ils sont tiraillés entre le modèle indochinois et le modèle vietnamien. Donc, si on regarde bien les documents, on voit bien que les communistes, oui, ils disent un État-nation, c'est la République démocratique du Vietnam, mais en même temps, ils parlaient d'une fédération au début et jusqu'en 1950, ils se disaient, oui, on est vietnamien, mais éventuellement, en collaboration avec nos amis laotiens et cambodgiens, on va bâtir, comme par hasard, une fédération indochinoise à la communiste. Donc, vous voyez, l'idée fédérale est absolument clé, tant pour les Français que pour les communistes. Donc, j'enchaîne. Chez les Français, c'est la même chose. Donc, Sarrault, il a parlé de la fédération en 1919. Encore une fois, on le voit en 30-31 face aux révoltes difficiles de cette année-là. De coup, pendant la période de Vichy, il va ressusciter aussi l'idée fédérale, justement pour faire vivre tout le monde ensemble et pour éviter que trois États-nations émerge et que la France puisse garder en main donc l'Indochine telle qu'elle. Si vous me permettez, il y a quand même une comparaison très intéressante à faire. Ce côté français, c'est l'Inde britannique. Regardez bien ce qui se passe en Inde britannique. Évidemment, il y a l'Inde qui existe et c'est britannique. On le sait. On sait un peu moins, c'est que la Birmanie a été attachée à l'Inde britannique comme une province, de même que le Laos et le Cambodge, en quelque sorte, ont été attachés au Vietnam dans une entité fédérale, coloniale. Le problème, c'est que, ça dépend, c'est la Birmanie, les nationalistes birmans, ils vont pouvoir mettre la pression sur les Britanniques pour qu'ils détachent donc la Birmanie de l'Inde britannique en 1937, ce dont les Cambodgiens et les Laotiens rêvaient dans les années 30. Et ils en parlent, et j'essaie d'en expliquer dans mon livre ce va-et-vient entre les deux côtés.
Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est tirer trop l'histoire, pourrait-on dire, que de voir dans l'aventure militaire vietnamienne au Cambodge, par exemple, à la fin des années 70, 1970, est-ce que c'est trop tirer l'histoire que de se dire qu'il y a peut-être un reste de cette idée-là, c'est-à-dire que ce Cambodge il puisse être sous la houlette ou sous la tutelle des Vietnamiens, en l'occurrence Christopher Gauchin?
Question délicate. Pourquoi? Parce que dans les années 70, à la fin des années 70, quelques années juste après les défaites américaines, vous avez la troisième guerre d'Indochine. Et là, c'est la première guerre entre communistes, bien sûr, mais c'est aussi un moment difficile. En quelque sorte, les guerres d'Indochine ne passent pas. Et donc, dans cette troisième guerre d'Indochine, il y a beaucoup de gens qui disent que, voyez-vous, plutôt de côté américain, qui disaient, vous voyez, on était tout à fait justifiés de combattre donc les communistes parce qu'on savait qu'ils allaient donc prendre en main le Laos et le Cambodge. Moi, je dirais, attention, c'est un peu plus compliqué. Mais si on remonte dans le passé et si on suit un peu, en quelque sorte, mon livre, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire on adopte une approche historique et on commence vraiment avec l'arrivée des Français. On suit donc Sarraud en 1919, les années
après
30.
Paul Doumer.
Exactement, exactement. On arrive à Vichy, comme je vous disais tout à l'heure. On voit quand même une interface entre le côté colonial et le côté communiste, qui est assez fascinant, donc un va-et-vient entre les deux. Donc regardez bien, en 49-50, lorsque les Français ils créent les États associés indochinois, pourquoi? Parce que la fédération indochinoise ne marche plus, et finalement, ils ont dû accepter qu'ils n'allaient pas créer une fédération indochinoise. Mais là, les Français créent donc les États associés, mais ce qui est intéressant, c'est que les communistes vont faire la même chose. Donc à partir de 49-50, les communistes vietnamiens créent donc un État révolutionnaire, un parti révolutionnaire communiste au Laos et au Cambodge, et ils vont continuer donc à collaborer ensemble jusque dans les années 70. Le gros problème, comme vous le savez bien, c'est que un certain Pol Pot ne voulait rien avoir avec ce type de collaboration.
Alors justement, Pol Pot, il en sera question. Bonjour Alain Lefkovitch.
Bonjour.
Demain, dans le documentaire que vous avez réalisé avec Séverine Cassard pour La Fabrique de l'Histoire, une drôle d'histoire que vous nous racontez demain.
Oui, j'ai appelé ça huis clos à Phnom Penh, parce que
comme un titre de SAS,
comme un titre de SAS de Gérard de Villiers. Donc l'intrigue, bah, évidemment, ça se passe à Phnom Penh, dans l'enceinte de l'ambassade de France, qui au moment de la chute de Phnom Penh, le 17 avril 1975, devient l'ultime, le seul refuge pour tous les étrangers encore présents à Phnom Penh. Il faut savoir que la première mesure prise par les Khmer Rouges, c'est d'évacuer la ville de tous ses habitants pour les envoyer à la campagne. C'est la panique, c'est le désordre le plus total, et toutes les ambassades, excepté l'ambassade de France, sont fermées, et donc l'ambassade devient ce refuge pour à peu près 3000 personnes.
Alors ça, c'est ça pourrait
ça, c'est le contexte.
Le contexte et même la belle histoire, pourrait-on dire, puisque d'une certaine façon, on se dit, voilà des gens qui rentrent dans l'ambassade et qui vont être protégés.
Voilà, alors ça aurait pu bien se finir, mais ça s'est pas bien terminé, en tout cas pas pour tout le monde, puisque va se jouer à l'intérieur donc de cette ambassade une sorte de huis clos qui va durer donc du 17 avril jusqu'au 5 mai. 1975, date de la fermeture définitive de la représentation diplomatique française à Phnom Penh. Et au cours de ces quelques jours, eh bien, la France va devoir demander à un certain nombre de gens, notamment des personnalités de l'ancien régime, du gouvernement Lon Nol, de quitter le territoire de la représentation diplomatique française. Quelques jours plus tard, 850 autres Cambodgiens vont devoir également quitter l'ambassade et être livrés à un destin pour la plupart funeste.
Et évidemment, ça n'est pas sans, état d'âme que tout cela se fait, des discussions, des débats internes à la représentation diplomatique française. Un extrait de votre documentaire, il s'agit de qui
Alors, il s'agit de François Bizot, qui
était l'auteur du Portail.
L'auteur de ce livre autobiographique Le Portail, et qui, à l'époque des faits, va jouer un rôle important dans l'ambassade parce qu'il parle cambodgien et qu'il est un peu l'intermédiaire entre les autorités consulaires françaises et les Khmer Rouges.
On écoute un extrait de ce documentaire diffusé demain dans La Fabrique de l'Histoire.
Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je ne pourrais jamais hésiter à sauver un nourrisson. Eh bien, je me pose la question. Quel est le jeune homme de 35 ans qui s'est trouvé derrière le portail de l'ambassade avec les gendarmes et qui voit arriver une grosse Mercedes vite teintée, une porte qui s'ouvre, une jeune femme d'une trentaine d'années, à peine, habillée en noir, avec un pantalon, des hauts talons qui claquaient, et qui dit « Je suis Madame Longue-Borette. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. » Et elle portait son nourrisson, un nourrisson qui n'avait pas un mois. Je lui dis « Madame, vous avez un passeport étranger, français ?» Elle me dit « Non. » Elle était désespérée. Et moi aussi. Alors elle me dit « Prenez mon bébé, sauvez mon bébé. » Je peux vous dire que si ça, ça m'était arrivé, j'aurais sauvé le bébé. Or, le jeune homme de 35 ans, qui, vous l'avez compris, était moi-même, ne l'a pas fait. J'ai fermé les yeux pour pas qu'elle me lance le bébé par-dessus le portail. C'est terrible. Or, vu la situation, l'homme que j'étais à ce moment-là, avec ce qui se passait autour, a eu cette réaction. C'est une réaction que, si je devais aujourd'hui porter un jugement sur l'histoire, sur les gens qui le consulent, etc., je dirais, celui qui a fait ça, il est condamnable. Et c'est vrai. Et c'est vrai, c'est insupportable. Or, les choses se font comme ça. Dans l'action, dans le feu douloureux des événements. Et on devient, dans ces situations-là, une personne, parfois dont on peut être fier et parfois dont on a honte. Et voilà, et c'est ça les choses.
Pour cet extrait du documentaire donc Huis clos à Phnom Penh que vous avez réalisé Alain Lefkovitch avec Séverine Cassard qui sera diffusé demain donc dans la Fabrique de l'Histoire. Merci d'être venu nous le présenter. Ensuite mercredi nous nous intéresserons au prince changeant, à savoir Sihanouk, et jeudi à la découverte d'Angkor et à la création de l'école française d'Extrême-Orient au 19e siècle. Merci à vous Christopher Gocha d'avoir été notre invité de deuxième partie aujourd'hui pour Indochine ou Vietnam qui résume, vous l'avez compris, donc les débats très importants qu'il a pu y avoir dans l'Indochine française des années 30 et 40 autour de l'identité, pourrait-on dire, de cette péninsule indochinoise. C'est publié chez Vendémiaire et en première partie, nous avions un entretien qui avait été réalisé par Séverine Yattard avec l'historien des relations internationales Pierre Grosser à propos d'un livre à paraître, « L'histoire du monde se fait en Asie ». Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. À la technique avec nous aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan, à la réalisation Séverine Cassard. Vous pouvez écouter, télécharger cette émission, l'écouter pendant 3 ans sans aucun problème sur le site internet. Vous pouvez la télécharger pendant 1 an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.